Bonjour à tous. Il embarrasse la présidence de la République depuis l'été dernier et l'affaire qui porte son nom a connu de multiples rebondissements. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le parcours d'Alexandre Benalla. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Jacques.
Vous avez essayé de comprendre quels sont les ressorts du personnage et vous avez découvert que des signes avant-coureurs de ce qui allait se passer existaient bien avant qu'il ne rencontre Emmanuel Macron.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
En 6 mois, on a réussi à construire et à faire de moi un personnage qu'on dit sulfureux, diabolique, infréquentable. Je n'accepte pas le personnage qui a été construit autour de moi et qui ne reflète pas la réalité de ce que je suis, qui je suis et ce que j'ai fait lorsque j'étais à la présidence de la République.
Voilà Alexandre Benalla qui s'exprime devant la commission d'enquête du Sénat en janvier 2019. Alexandre Benalla, c'est un peu le grain de sable de la présidence. Ses déboires posent tout autant la question de la place qu'on lui a accordée à l'Élysée que celle de ses relations supposées avec des oligarques russes. Mais qui est vraiment cet homme qui revient à la une des médias, un peu à la manière d'un serpent de mer? Quel est son parcours et comment en est-il arrivé à outrepasser ses fonctions, comme il l'a fait sur la place de la Contrescarpe à Paris? C'est donc ce qu'on va voir avec vous, Élodie Guéguin, mais peut-être pour commencer, d'abord rappelez-nous quelles étaient précisément les fonctions d'Alexandre Benalla à l'Élysée.
Eh bien, il était chargé de mission et adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron. Son rôle, c'était de s'occuper des questions de sécurité du président de la République et du palais de l'Élysée, lors des déplacements du président à l'étranger, mais aussi de ses instants en famille, au Touquet par exemple.
Et c'est donc pendant qu'il exerce ces fonctions-là qu'il dérape place de la Contrescarpe.
C'est ça, hein, et c'est ce qui va déclencher l'affaire qu'on connaît, mais ce qui se passe ce jour-là est assez révélateur du mode de fonctionnement d'Alexandre Benalla. C'est un homme ambitieux, impulsif, mais aussi très jeune. Max Dubois a conseillé Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Il a côtoyé et observé Alexandre Benalla, et voilà comment il interprète ses dérapages.
On est en face d'un jeune homme qui a 27 ans, à qui on a donné des passeports diplomatiques, une arme. Il n'a pas su gérer tout ce qu'on lui a donné. C'est un pur sang sans bride et qui est parti en live. Bah, il pète un câble, comme on dit aujourd'hui. Voilà, il ne sait plus où il est. C'est dommage, parce que d'abord, il a pas mal fait de mal à la politique, parce que je pense que le quinquennat a été très, très, très secoué profondément par cette affaire. Et puis lui, c'est peut-être aussi la chose la plus grave, c'est que sa propre vie à lui est entachée.
Ouais, sa propre vie. Alors justement, Élodie, examinons-la maintenant, cette vie, pour essayer de comprendre qui est Alexandre Benalla. Il a commencé très jeune dans le secteur de la sécurité et à l'époque, beaucoup lui prédisent un brillant avenir.
Oui, on peut encore le voir sur ces images près de la grande plage de Cabourg. Nous sommes en 2007. Alexandre Benalla a 16 ans, silhouette frêle, visage fermé, imperméable noir et oreillette. Il sert déjà de garde du corps aux vedettes du festival du film romantique, comme Marion Cotillard.
Ça a toujours été associé à la musique. Chaque fois que je suis venue ici, on a chanté des nuits entières.
Voilà, ce jour-là, Alexandre Benalla protège donc Marion Cotillard. Il rêve déjà de police et de protection rapprochée, mais à l'époque, il vit où, Élodie ?
Eh bien, dans un quartier populaire d'Évreux, en Normandie, sa mère l'élève seule, elle milite au Parti Socialiste, et c'est donc tout naturellement que le jeune Alexandre vient frapper à la porte du PS, rue de Solferino à Paris, lorsqu'il a tout juste 17 ans. À l'époque, le service de sécurité du parti est dirigé par Éric Plumer. Ils nous racontent leur première rencontre.
Il est venu se présenter au niveau des gardiens de Solferino avec des photos où il assurait la sécurité de Marion Cotillard. Il était tout gamin et un peu fluet. Il insiste beaucoup pour faire de la sécurité. Mais c'est vrai qu'au premier abord, je n'ai pas tout de suite accepté sa collaboration. Parce que je me méfiais, parce que la sécurité, il y a un monde de mythos, quoi. Je veux dire, faut faire attention.
Mais il revient, c'est ça ?
Ouais, il revient le lendemain ou le surlendemain. Il a pas lâché. Donc, je me suis dit, allez, on va l'essayer. Parce que quelqu'un qui a vraiment le culot à cet âge-là et la volonté, il faut essayer.
Oui, il l'essaye donc, hein, pour reprendre son vocabulaire. Et alors, Élodie, ça se passe comment ?
Eh bien, en fait, très bien. Hein, le patron de la sécurité du PS est très vite impressionné par le jeune Benalla, au point qu'il va le prendre sous son aile. Il imagine même un temps en faire son successeur, et pour ça, il va le tester.
tester pour pouvoir diriger un énorme service de sécurité comme le nôtre. C'est pas simplement faire le beau debout derrière un personnage. C'est savoir ce que c'est que de garder un parking sous la pluie. C'est savoir se faire insulter pendant une demi-heure sans réagir. Donc, je le testais partout.
Et ça, ça lui plaisait pas trop.
Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je me souviens d'un colloque qu'on avait fait porte-maillot, où je le mets exprès à une porte, prendre des tickets de restaurant pour vérifier que les gens avaient bien payé leur repas. 3 minutes, il était plus là. Je le retrouvais derrière un des VIP de notre partie. Donc, j'allais le chercher. C'était les engueulades. Il fallait qu'il reparte. Mais il pouvait pas tenir. C'était pas possible. Il fallait qu'il soit dans la lumière.
Fallait qu'il soit dans la lumière. Et on a peut-être là, d'ailleurs, la première clé de compréhension du personnage.
Oui, il aime briller. Ça se remarque notamment dans un book qu'il constitue et que nous avons pu consulter. On voit de très nombreux clichés de lui, toujours à côté des personnalités les plus en vue du PS, comme Martine Aubry ou Ségolène Royal. Il assure également la protection rapprochée du candidat à la présidentielle en 2012.
Les Français ont choisi François Hollande à 51,8%.
Image en direct, celle de la liesse Ruth Solferino devant le Parti Socialiste.
Ruth Solferino donc, et à Solferino, Alexandre Benalla est aux premières loges pour assister à cette victoire de François Hollande. Après ça d'ailleurs, il va se mettre, Élodie, au service d'un ministre socialiste.
Oui, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Il devient son chauffeur, mais ça va tourner court et c'est le premier couac dans la carrière du garde du corps Alexandre Benalla.
C'est-à-dire ?
Eh bien, un jour, alors qu'il conduit le ministre, il tente de prendre la fuite après un accrochage avec une voiture. Il était agité, il insultait les gens, racontera Arnaud Montebourg à Mediapart. Ce jour-là, le ministre termine son trajet à pied. Mais ce ne sera pas tout. D'autres incidents vont conduire Bercy à le licencier au bout de 4 mois. Écoutez ce qui est précisément écrit dans la lettre de licenciement qu'on lui remet.
Plusieurs fois, M. Benalla a fait la démonstration de son incapacité à occuper les fonctions de chauffeur personnel du ministre. Fonction qui nécessite à la fois discrétion, responsabilité et tempérance. Il a par exemple introduit une personne au sein du ministère sous couvert d'un rendez-vous supposé avec le ministre, obligeant celui-ci à démentir le rendez-vous. À une autre occasion, M. Benalla s'est prévalu d'un soutien d'Arnaud Montebourg pour une demande de port d'armes sans que le ministre en ait été informé. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande de faire procéder au licenciement de M. Benalla.
Ouais, donc Alexandre Benalla se fait renvoyer du ministère.
Oui, et ce licenciement ne surprend pas vraiment son mentor, Éric Plumer.
Arrivé très proche d'un ministre important du gouvernement, le gamin, il pète un cop, quoi. Je vous dis, excusez-moi l'expression, mais il vole au-dessus des flots. Même quelqu'un qui a 30 ou 40 ans à qui ça lui arrive, ça peut monter à la tête. Donc, rendez-vous compte, un gamin de 20 ans. Quoi. Donc, il a fait des erreurs, ça m'étonne pas. C'est son rêve de toujours. Et c'était trop tôt.
C'était trop tôt, d'où son licenciement. Et qu'est-ce qui se passe après, Elodie ?
Eh bien, en 2012, après avoir été mis dehors du ministère de l'économie, Alexandre Benalla demande à une députée PS qu'il connaît, Pascal Boitard, de lui accorder un badge de collaborateur occasionnel à l'Assemblée nationale.
Mais pour y faire quoi à l'Assemblée ?
Eh bien, officiellement pour lui permettre d'accéder à la bibliothèque et à la salle de sport.
Donc Pascal Boitard lui procure ce badge. Mais vous avez découvert, Élodie, qu'une autre figure du PS a fait la même chose.
Et cet homme n'est autre que l'ancien candidat à la présidentielle du PS, Benoît Hamon. On est en 2014, Benoît Hamon vient de quitter le gouvernement et fait son retour à l'Assemblée auprès des frondeurs. Alexandre Benalla travaille alors dans le privé. Il l'approche et lui demande un badge. Et Benoît Hamon accède à sa demande sans sourciller, en pensant, semble-t-il, qu'il travaille toujours pour le PS.
Il se présente comme assistant chauffeur, c'est vous d'ailleurs qui m'avez donné l'information, et qu'il a probablement menti sur ce point, comme il a menti à beaucoup de monde après. Mais moi, je fais un badge à un membre du service d'ordre du PS dans ma tête, qui veut aller à la salle de sport, et point barre. Il n'y a pas de vérification.
Enfin, vous n'avez pas vérifié.
Mais absolument pas, on n'a pas de contrat de travail, il n'y a rien du tout. Et dans les faits, il m'a menti.
Vous vous retrouvez malgré vous à faire un faux quelque part, parce que c'est un faux.
Oui, mais c'est pas moi qui le fais, c'est lui qui déclare. C'est une fausse déclaration de sa part. Moi, je ne fais aucun faux. Bon, je pense que comme tout le monde, j'ai été enfumé.
J'ai été enfumé, dit Benoît Hamon. Mais il a vraiment travaillé à l'Assemblée, Alexandre Benalla ?
Alors lui écrit qu'il a bien travaillé pour des députés. En 2016, il rédige un CV que nous avons consulté. Il y affirme avoir été assistant parlementaire.
Et assistant de qui ?
Eh bien, on ne le sait pas. Ce qu'il écrit, c'est que de septembre 2012 à 2016, il a été, je cite, « assistant parlementaire sécurité à l'Assemblée nationale pour le groupe socialiste ».
C'est quoi un assistant parlementaire sécurité ?
Alors, on a cherché, Jacques, en fait, ça n'existe pas. On n'a d'ailleurs pas trouvé trace d'une quelconque mission menée auprès de députés.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu comment le jeune Alexandre Benalla connaît des hauts et des bas au PS avant de travailler dans la sécurité privée. Maintenant, on va évoquer un autre épisode déterminant de sa carrière, Élodie Guéguin.
Oui, il va travailler aux côtés de Jean-Marc Mormec. Mormec, c'est une véritable légende de la boxe. Il a été sacré 7 fois champion du monde. Et Alexandre Benalla l'approche par le biais du PS. Il admire l'ex-champion. Or, celui-ci devient en 2016, sur proposition de Manuel Valls, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer.
Et il embauche Alexandre Benalla ?
Exactement, et on le voit bien dans un documentaire réalisé par Canal Plus Caraïbes, intitulé « Du ring au ministère ». On assiste au premier pas de Jean-Marc Mormec en politique. Son équipe est déjà au complet, mais surprise, Jean-Marc Mormec décide de lui imposer son ami Alexandre Benalla. Il le présente même devant les caméras.
On fait cette réunion, c'est juste pour vous présenter en fin de compte, même si vous le voyez depuis quelques semaines, même trop même. Il le voit trop. C'est Alexandre, il va venir travailler avec nous.
Voilà, donc on le présente à l'équipe du délégué, mais pour exercer quelle fonction, Élodie ?
Alors officiellement, il est son chef de cabinet. Sauf que le problème, Jacques, c'est que ce poste n'existe pas. Alexandre Benalla va donc exercer cette mission avec l'accord de Matignon comme bénévole.
Attendez, chef de cabinet bénévole ?
Oui, je pense que c'est du jamais vu au sein d'un gouvernement.
Bon, et il sert à quoi ce jamais vu ?
Eh bien, Alexandre Benalla se vante d'avoir un carnet d'adresses bien fourni dont le délégué interministériel pourrait profiter. Ses conseils avisés pourraient aussi lui être utiles. C'est en tout cas ce que raconte, très sûr de lui, le jeune chef de cabinet, toujours dans ce documentaire.
On est un poste de délégué, on a envie que les choses se fassent vite. S'il y a des sujets, des problématiques, ils doivent avancer vite. Alors maintenant, il faut qu'ils comprennent que l'administration, il l'a bien compris, c'est parfois lourd, c'est parfois compliqué, etc. Donc mon rôle aussi, c'est de trouver un peu des chemins de traverse et d'essayer d'aller le plus vite possible.
Ah oui, donc lui, il se voit dans le rôle de celui qui fait gagner du temps, quitte à prendre des raccourcis.
C'est ça, et pour mener sa mission, il va prendre de plus en plus de place et il va bousculer les règles établies.
C'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, nous avons eu accès à sa lettre de mission qui a été signée par Jean-Marc Mormec le 24 juin 2016. Elle est censée définir les contours de son travail de chef de cabinet. Elle nous a beaucoup intrigués parce qu'elle porte l'entête de Matignon, mais elle est mal écrite avec des fautes de français. Eh bien, nous avons appris que c'est Alexandre Benalla lui-même qui l'a rédigée, cette lettre de mission.
Oui, puisqu'on va aussi constater, Élodie, c'est qu'il affectionne déjà tout ce qu'on pourrait appeler les attributs du pouvoir.
Oui, par exemple, à sa demande, il s'est vu attribuer un badge professionnel par Matignon, un badge bleu-blanc-rouge dont disposeraient peu de collaborateurs de délégués interministériels. Il s'est aussi vu attribuer le bureau de la directrice de la communication, non sans quelques grincements de dents. Celle-ci, à l'époque, avait publié des photos de ses affaires qui avaient été déplacées sans son accord et alors qu'elle était en congé.
Bon, et il y a autre chose ?
Eh bien, officiellement, il n'a pas de voiture de fonction et pourtant, son ami Vincent Crase, dans « Présumé coupable », le livre qu'il vient de publier raconte ceci.
Ce job bénévole lui octroie quelques avantages, dont une voiture de fonction. Alexandre m'explique en souriant.
Elle a un gyrophare et la plaque police.
Sa voix dissimule mal un sentiment de fierté, voire de crânerie. Est-il sensible à de tels privilèges ? Je crois que oui, mais pour de bonnes raisons. Alexandre est animé par un profond désir de reconnaissance. Une voiture de fonction officielle réservée au commis de l'État, c'est avant tout un signe extérieur de cette réussite sociale à laquelle il a toujours aspiré. Lui, le gamin de la ZUP qui se prenait en photo dans la cour de l'Élysée à 15 ans, il rêvait d'en être. Et voilà que 10 ans plus tard, il en est.
Ouais, il en est, écrit Vincent Crase. Et il nous livre du même coup une autre clé de compréhension du personnage, hein, c'est la reconnaissance. Alexandre Benalla aurait toujours apprécié les signes extérieurs de réussite.
On peut le penser. D'ailleurs, c'est aussi lui qui suggère à Jean-Marc Mormec de réclamer des passeports de service, des passeports qui permettent de passer plus facilement la douane à l'aéroport. Alexandre Benalla et le délégué se font donc faire des passeports de service en août 2016, pour un déplacement prévu en Allemagne le mois suivant.
Mais on a besoin d'un passeport pour aller en Allemagne ?
Eh bien non, justement, hein, nous avons demandé à Jean-Marc Mormec si ces passeports n'auraient pas été commandés pour se rendre dans d'autres pays. Mais le délégué interministériel ne nous a pas répondu sur ce point. Ouais.
Et ce passeport, Élodie, c'est pas l'un des fameux passeports de service qu'Alexandre Benalla avait conservé ?
Oui, c'est bien l'un d'eux. Hein. En octobre 2016, lorsqu'il quitte la délégation interministérielle pour aller rejoindre Emmanuel Macron, Alexandre Benalla emporte ce passeport, mais c'est pareil pour son badge et son téléphone. Ils lui ont été réclamés à plusieurs reprises, nous a expliqué le cabinet de Jean-Marc Mormec, mais sans succès malgré l'engagement qu'il avait pris. Sa ligne sera finalement coupée 8 mois après son départ.
Bien, alors on va en venir maintenant à un autre épisode assez méconnu du parcours d'Alexandre Benalla, Élodie. C'est son entrée en franc-maçonnerie.
Oui, un épisode très bref, vous le verrez, mais qui est assez révélateur chez ce jeune homme qui cherche à cultiver ses réseaux. L'information a été révélée par notre confrère François Coche de l'Express. En 2016, Alexandre Benalla demande à rejoindre la Grande Loge Nationale Française, la GLNF. Sa spécificité, c'est que contrairement aux autres obédiences, il faut croire en Dieu pour y entrer. Peu importe votre religion, mais la spiritualité est au cœur du parcours de ces maçons.
Et alors, comment Alexandre Benalla s'y prend pour entrer dans cette loge ?
Eh bien, il adresse une lettre de motivation, tout simplement. Il est ensuite dirigé vers un atelier, les Chevaliers de l'Espérance. Et comme tout nouveau maçon, eh bien, il a un parrain. Nous l'avons retrouvé, ce parrain. Il a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il nous a assuré qu'Alexandre Benalla avait fait l'objet d'une enquête poussée.
Les frères qui ont mené l'enquête sur lui ont confirmé qu'il était un jeune homme intelligent, simple, respectueux et motivé dans sa quête de spiritualité sans autre motivation professionnelle ou volonté de constituer un réseau. Après son passage sous le bandeau et après son initiation en mai 2017, Alexandre Benalla ne s'est plus présenté à nos réunions. Ses fonctions élyséennes ne lui laissaient plus le temps de poursuivre son chemin à nos côtés.
Ah oui, donc il a été initié et ça s'est arrêté là.
Effectivement, parce qu'au même moment, il entre à l'Élysée. Difficile de tout concilier. Toujours est-il que plus tard, la GLNF le suspendra après sa mise en examen dans l'affaire de la contrescarpe. Écoutez son porte-parole, l'assistant grand maître Jean-François Variot. Je lui ai demandé s'il n'avait pas l'impression de s'être trompé sur le profil de ce nouvel initié.
Je sens que derrière, il y aurait l'idée de « est-ce que vous avez été assez attentif dans le recrutement d'un personnage aussi sombre ?» Il a sans doute montré ses côtés, plus les côtés lumineux que les côtés sombres, s'il en a. Pour autant, on n'a pas à renier le fait de l'avoir accepté chez nous. On n'a pas été léger à la circonstance.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors Élodie Guéguin, après Jean-Marc Mormec et un passage éclair en maçonnerie, on va maintenant évoquer l'épisode qui sera déterminant dans la carrière d'Alexandre Benalla. On est en 2016 et il rejoint quelqu'un qui va changer sa vie, c'est un certain Emmanuel Macron.
Oui, même si au début il n'est qu'un simple bénévole dans l'équipe de campagne, il fait déjà le pari que le candidat Macron ira loin. C'est en tout cas ce qui transparaît dans ce coup de fil qu'il adresse à son ami Vincent Crase, un coup de fil que ce dernier raconte encore dans son livre.
Tu connais En Marche ? C'est le mouvement d'Emmanuel Macron. Ils organisent un meeting après-demain à Strasbourg. T'es dispo ?
Ça devrait le faire. C'est payé combien ?
Rien, c'est du bénévolat. Mais il faut voir ça comme un investissement futur.
Un investissement, ce qui veut dire effectivement qu'il croit déjà dans sa réussite.
Oui, il y croit parce que dès le début, il est très impressionné par ce jeune candidat brillant et sûr de lui. C'est ce qu'a observé Max Dubois, l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron sur les questions d'outre-mer.
Alexandre Benalla, il est complètement fasciné par Emmanuel Macron. Quelque part, Emmanuel Macron, il trace une voie, presque pour lui, dans laquelle lui pourrait exister. Il ouvre le chemin des possibles. Avec Emmanuel Macron, on sent que, quelque part, il est aspiré.
Aspiré et fasciné par cet homme qu'il regarde avec admiration. Et dans l'entourage du futur président, on semble apprécier la fougue et l'intelligence du jeune Benalla. Mais sur d'autres, le charme opère un peu moins. Écoutez par exemple ce que nous a raconté une de ses anciennes collègues qui a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Nous avons donc fait lire ses propos.
Ce qui frappe d'abord chez lui, c'est l'absence de regard direct. Il vous évite et se focalise exclusivement sur le détenteur du pouvoir. En réunion, il n'a Dieu que pour le chef. Il y a son ton aussi. Il est différent selon à qui il s'adresse. Les ordres simples et directs aux subalternes, l'humour et la connivence immédiate avec le chef, comme un jeune garçon fougueux qui se sait d'avance pardonner. Enfin, la posture permanente. Élégant, viril, outil technologique dernier cri, montre, cigare. Rien n'est spontané dans son attitude. Tout est toujours sous contrôle pour accroître son pouvoir et asseoir son personnage.
Bon, ça c'est pour son ressenti, hein. Maintenant, et quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça lui réussit puisque c'est ce personnage-là qui va séduire le futur chef de l'État.
Exactement, hein, parce qu'Alexandre Benalla sait se rendre indispensable pendant la campagne, au point qu'il devient très vite le couteau suisse d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous a raconté l'un de ses collègues, qui a lui aussi fait partie du service d'ordre du candidat.
C'est une personne, quand on le connaît bien, quand on bosse avec lui, une personne comptait pas ses heures, il était toujours là, et il allait au charbon en fait. Il n'avait pas peur, il faisait les équipes, c'est vraiment un meneur en fait.
Et ce meneur va peu à peu intégrer le premier cercle, la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. C'est le début d'une grande complicité. De fait, Alexandre Benalla est un garde du corps, mais lui semble se percevoir autrement. C'est ce que nous raconte encore Max Dubois.
Il n'est pas, de son point de vue, un simple garde du corps. C'est tout le problème. Un certain nombre de gens qui sont dans le premier cercle d'Emmanuel Macron, dont Alexandre Benalla, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont des conseillers vis-à-vis du candidat Macron. Mais eux sont emmenés dans un monde qui est un monde fermé, de quelques-uns qui sont, c'est leur candidat, et je pense qu'il y a là déjà une distorsion entre ce qu'ils pensent qu'ils sont et ce qu'Emmanuel sait qu'ils sont. C'est pas la même chose.
Ah oui, donc Alexandre Benalla se méprendrait sur ce qu'est son rôle réel ?
Eh bien, on peut se poser la question, hein, parce qu'à partir du moment où on le désigne comme responsable de la sécurité du candidat Macron, il va prendre toutes sortes d'initiatives qui, parfois, ont le don d'énerver certains de ses collègues.
Par exemple ?
Eh bien, à plusieurs reprises, avec Vincent Crase, il réclame des armes et leurs demandes réitérées vont finir par agacer l'équipe de campagne. Comme en témoigne ce mail issu des Macron Leaks, vous savez, ces milliers de messages qui ont fuité à la veille de l'élection. Dans l'un d'eux, écrit par Grégoire Poton, le directeur des affaires générales d'En Marche, il est question du comportement d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase.
Ils reviennent à la charge pour leurs pistolets. Franchement, entre les serrures qui sont posées la nuit sans mon accord, les badges qui sont commandés alors que ça déroge à notre procédure, et les pistolets à billes, ça devient épuisant.
Ouais, épuisant, mais on va quand même s'arrêter une seconde sur la question des armes, Élodie. Parce que c'est aussi une des clés qui permettent de cerner le personnage. Hein. Cette volonté de porter une arme, c'est un peu une constante chez lui.
Hein. Oui, ça ne date pas d'hier. En 2015, déjà, Alexandre Benalla pose pour des photos illustrant un article de l'Obs consacré à la protection rapprochée. Il se met alors en scène avec, bien visible, un pistolet de type Glock à la ceinture. Mais Éric Plumer, qui était donc le chef de la sécurité du PS, l'avait remarqué bien avant ça. Lui nous a confié qu'en 2012 déjà, Alexandre Benalla avait souhaité être armé pour accompagner le candidat François Hollande.
Il aurait bien aimé qu'on demande un port d'armes pour la présidentielle. Il est dans ses délires de jeune, il utilise son arme en tant que gendarme réserviste. Mais moi je lui explique, c'est du grand n'importe quoi, être armé. Nous, notre rôle, c'était beaucoup les meetings, par exemple les meetings du Bourget, c'est du 40 000 personnes. Il faut vraiment être balèze, on voit ça dans les films de cow-boy, tirer une balle entre les deux yeux d'un terroriste au milieu de 40 000 personnes, c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas. Pour moi, c'est un délire. Être armé, c'est un délire pour nous, services de sécurité.
Un délire pour lui peut-être, mais apparemment pas pour Alexandre Benalla.
Non, et ce délire d'ailleurs pourrait lui coûter cher, puisqu'il y a quelques mois, Mediapart publie un selfie où l'on voit une jeune femme, une serveuse, dans un restaurant qui pose avec les trois gardes du corps d'Emmanuel Macron après un meeting. Et au premier plan se trouve Alexandre Benalla qui semble pointer une arme sur le visage de la serveuse.
Ouais, ce qui pose quand même un sérieux problème. Mais là où ça peut être encore plus embarrassant, Élodie, c'est qu'il n'avait pas l'autorisation de porter une arme en dehors du QG de campagne.
Effectivement, et c'est pour ça qu'il est entendu par la police judiciaire. Lui raconte alors que ce pistolet était un jouet, un pistolet à eau. Puis, au cours d'une deuxième audition, il indique que sur la photo, ce n'était peut-être pas lui, mais l'un de ses collègues qui pointait cette arme. Pour essayer d'en savoir plus, nous avons donc rencontré l'un des gardes du corps qui posait avec lui sur cette photo. Et voilà ce que je lui ai dit. Alors, Alexandre Benalla expliquait que c'était un pistolet à eau.
Ouais, expliquer que c'était un pistolet à eau. Après lui, c'est ce qu'il dit, nous on se rappelle même pas de l'arme, et puis je sais que c'est pas moi qui l'a, je sais que c'est pas mon ami qui l'a. Après, il reste qu'une personne.
Parce qu'après, Alexandre Benalla, il fait une autre déclaration, il dit que c'est pas sa main.
Ouais, c'est ce qu'il dit, mais quand on regarde la photo, ça peut pas être la main de quelqu'un d'autre.
Bon, on laissera donc à la justice le soin de statuer là-dessus. Et on va revenir à notre récit, Élodie, parce qu'à cette époque, Alexandre Benalla a encore le vent en poupe, il est même en pleine ascension.
Oui, il se voit proposer un poste en or, chargé de mission au cabinet du président de la République. Officiellement, ce n'est pas un poste de garde du corps. Emmanuel Macron a déjà à son service des policiers chargés de sa protection. Et pourtant, sur de nombreux déplacements, publics ou privés, on peut le voir tout proche du nouveau président, comme s'il assurait sa sécurité.
Mais son rôle allait bien au-delà, Élodie. On lui confie aussi une autre mission qui est beaucoup plus ambitieuse.
Oui, une mission controversée qui attirera d'ailleurs plus tard l'attention de la commission d'enquête du Sénat. Écoutez ce que nous raconte à ce sujet le sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur.
Il est chargé de penser l'avenir de la sécurité du chef de l'État. Or, penser l'avenir de la sécurité du chef de l'État de la cinquième puissance du monde, c'est quand même un sujet important. Le but qui est le sien, c'est de créer une cellule autonome de sécurité autour du chef de l'État qui ne soit plus totalement subordonné au ministère de l'Intérieur.
Oui, donc c'est de réformer la sécurité du président. Hein. Rien que ça, c'est un vaste projet. Et pour le mener à bien, ce vaste projet, d'ailleurs, il voit grand.
Hein. Oui, il se verrait bien dans un bureau encore plus grand que le sien, dans ce palais qu'est l'Élysée. Un bureau même plus grand que celui du chef de cabinet d'Emmanuel Macron. C'est ce qui a été raconté, là encore, par Vincent Crase dans cet extrait de son livre.
À l'Élysée, Alexandre m'emmène dans un bureau proche du sien. La pièce est vide, mais très grande. Je lui demande ce qu'on fait là.
Voilà mon nouveau bureau.
Ah bon ?
Oui, enfin, je vais en faire la demande.
Mais t'es pas bien dans le tien ?
Si, mais celui-là est vachement plus grand.
Et il dit vrai. Il est tellement grand qu'il dépasse de loin la superficie du bureau de son chef, François-Xavier Lauche.
Oui, on voit les choses en grand, mais pour autant, Élodie, on n'en oublie pas les amis.
Non, et ça aussi, ça fait partie du personnage. Écoutez par exemple ce que nous a raconté Éric Plumer quand Alexandre Benalla découvre dans la presse que son ancien mentor allait être licencié par le PS pour raisons économiques. Eh bien, il décroche son téléphone alors que les deux hommes sont brouillés depuis 5 ans.
Un coup de téléphone de l'Élysée, c'est Alexandre Benalla qui m'appelle car il est très inquiet. Parce qu'il sait que c'est ma vie, que c'est ma passion, il est très inquiet pour moi psychologiquement. On ne s'est pas parlé depuis 5 ans, il sait très bien que je continue à le, je ne vais pas dire l'insulter, mais pas loin à le maudire, dans mes propos à diverses personnes. Il prend le téléphone alors qu'il est au sommet, et il est chef de cabinet adjoint du président de la République, et il m'appelle. Et donc je peux vous assurer que là, ça m'a fait un bien extraordinaire. C'est un homme de cœur, hein. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Faut pas avoir l'image du barbouze, du ceci, cela. C'est pas ça du tout, hein, Alexandre Benalla. C'est quelqu'un qui a pas de limite, ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur extraordinaire.
Voilà, en tout cas, à ce moment-là, tout va bien pour Alexandre Benalla. Tout semble lui réussir. Mais ça ne va pas durer. Et on voit ça dans quelques instants. When I... A boy
was AJ. Nowhere, no how, no one, nothing was not made of fire. One, two, three, four, five, six times the charm. Six, six, five, four, three, two, one. And hey, 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 no, no, no. Halo. And hey, 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 no, no, no.
Une balade aux États-Unis sur un air de road movie, c'était No Halo, extrait du nouvel album du chanteur du Kansas, de Kansas City précisément, Kevin Morby, album qui doit sortir le 26 avril prochain.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Je vous invite, monsieur Benalla, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Alors là, on est en septembre 2018, changement de décor, hein, Élodie Guéguin. Le Monde a révélé l'affaire de la contre-escarpe, il y aura ensuite les révélations de Mediapart sur les contrats russes. Alors on va s'arrêter deux minutes justement sur ces contrats. Déjà, rappelez-nous, c'est quoi précisément ?
Alors ce sont des contrats de protection rapprochée pour des oligarques. Officiellement, c'est Vincent Kraz, l'ami d'Alexandre Benalla, qui aurait été contacté pour former des équipes de garde du corps au service de ces oligarques. Il aurait pour cela fait appel à la fameuse société de sécurité Velours. Et Alexandre Benalla aurait soufflé à Velours des noms de connaissances qui seraient, selon lui, capables d'assurer ses missions.
Donc Alexandre Benalla se serait mêlé de contrats de sécurité privée alors qu'il était en poste à l'Élysée ?
Alors lui le dément, Jacques, hein, ou plutôt il a expliqué ça devant les sénateurs.
Je vais réaffirmer solennellement, devant vous, je n'ai eu aucun lien professionnel avec des sociétés de sécurité ou de défense lorsque j'ai occupé mes fonctions à l'Élysée.
Ouais, je n'ai eu aucun lien avec des sociétés de défense ou de sécurité. Il est catégorique, là.
Oui, mais on peut très bien n'avoir aucun lien direct professionnel avec des sociétés et en même temps être en contact avec elles. Il se trouve que nous avons eu accès à un document, un message envoyé par Alexandre Benalla lui-même, alors à l'Élysée, à l'un de ses contacts au cours de l'été 2017. Nous avons fait lire ce message.
Si ça t'intéresse, il y a un contrat à Monaco. C'est seulement une semaine sur deux, payé 3 500 ou 4 000 euros par mois. C'est encore en cours de négociation. Le contrat, c'est pour un an dans un premier temps.
Ouais, un an de contrat, effectivement, c'est assez troublant. Et comment il explique ce SMS, Alexandre Benalla ?
Eh bien, dans son entourage, on explique qu'il s'agissait d'une simple mise en relation entre des personnes qui cherchent du travail et des personnes qui en proposent. Quoi qu'il en soit, pour l'affaire des contrats russes, le parquet financier a ouvert une enquête pour corruption.
Bon, et là encore à suivre. Donc, maintenant, en deux mots, Élodie, sa vie à Alexandre Benalla aujourd'hui, c'est quoi ?
Alors, il a monté son entreprise de conseil en sécurité. Il fait des affaires. On a régulièrement de ses nouvelles par la presse lorsqu'il voyage en compagnie d'hommes d'affaires et d'intermédiaires richissimes, notamment en Afrique. Il continue donc de fréquenter un milieu qui l'a toujours fasciné, comme nous le raconte encore son ancien collègue garde du corps.
Quand on fait ce travail-là, on est toujours fasciné par ça, parce qu'on travaille avec des gros clients. Vous, vous prenez le métro, ils prennent le jet, des voitures. Ouais, bien sûr, les Saoudiens, ça claque de l'argent comme je sais pas quoi. Les gens, ils vont dans des beaux restaurants, ça claque. Tout le monde est fasciné par l'argent.
Et lui, c'était son cas ?
Pas plus que tous les gens que j'ai rencontrés, pas plus que... Ouais, peut-être un peu jeune, il était peut-être un peu flambeur. mais pas plus que les autres.
Un peu plus que les autres, dit-il. Bon, et Alexandre Benalla, Élodie, lui, qu'est-ce qu'il dit de tout ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, nous avons eu une conversation et je lui ai proposé une interview. Mais il m'a expliqué qu'il devait réserver ses commentaires à la justice. Il ne souhaite donc ni s'exprimer, ni même que je fasse état de ses propos.
Bien, bah alors, on en restera là. Merci, Élodie, pour cette enquête. Je précise qu'on peut la réécouter ou la podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique il y avait Antoine Gomez. Dans quelques instants, CO de mon amour, Denis Chessou va vous expliquer comment choisir une électricité qui soit verte. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.